notre rendez-vous mensuel avec Finistère 360, l'agence du tourisme, du nautisme et des territoires. Surtout du nautisme ce mois-ci, puisque chaque mois, on vous fait donc découvrir Tout commence en Finistère, le podcast. Donc, pour ce mois de mai, Éric Bédouet a rencontré un des plus célèbres navigateurs du Finistère autour d'un autre tour, le Tour du Finistère à la voile, dont la 35e édition a lieu du 25 au 31 juillet prochain.
Tout commence en Finistère,
le podcast.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Tour du Finistère à la voile avec un navigateur de renom, Armel Leclerche. Cette année 2021 marque la 35e édition de cette épreuve particulièrement appréciée. Les marins sont le premier à le dire, le Tour d'UF ne serait pas ce qu'il est sans ses paysages à couper le souffle qui se découvrent au fil des étapes. C'est aussi un formidable terrain de jeu pour naviguer, se faufiler entre les cailloux, apprivoiser les coups de vent, saisir les opportunités au gré des courants ou encore affronter l'étape de nuit. Le Tour d'UF, c'est une semaine de navigation, de découverte et de rencontres. Mais laissons Armel Leclerche nous raconter 7 tours du Finistère à la voile.
Le Tour du Finistère à la voile, bah, ça me rappelle de très bons souvenirs. Finalement, c'était mes premières régates en habitable. Et ce qui était sympa avec le Tour du Finistère, c'est qu'il y avait c'était une course à étapes. Donc c'était un enchaînement de plusieurs régates sur une semaine. Et moi, j'ai découvert ça pour la première fois, genre, je ne sais plus dans quelle année exactement, mais c'était avec mes collègues avec qui j'ai beaucoup navigué, c'était Jérémy Veillou, Nicolas Troussel. On alliait la régate sur l'eau, donc nous on aimait ça, on aimait la compétition, on aimait tirer des bords, faire des manœuvres et essayer de jouer le classement. Et chaque fois le classement était pour nous important et on gagnait pas à chaque fois, loin de là. Et puis à terre, au mouillage ou au ponton, il y avait une super ambiance et on se rendait compte que finalement on avait tous cette passion commune une fois qu'on avait fait la régate, de refaire le match le soir, tous ensemble. C'est vrai que c'était pour moi, finalement, je crois que la première fois où j'ai dû passer en course le Chenal du Four, le Ratzin. Moi, j'avais déjà fait le Tour du Finistère en croisière avec mes parents, plus jeunes, mais je ne m'en souvenais pas vraiment de tous ces coins-là. Et là, pour la première fois, finalement, j'allais vraiment naviguer en course, en régate, avec d'autres bateaux sur un parcours qui est très sympa. Et je devais avoir... j'étais pas encore majeur. On se prépare parce qu'on a envie de bien faire les choses. Puis on pose un peu des questions avant. On essaie aussi d'organiser à bord les rôles qu'on va avoir. C'est-à-dire chacun va être responsable de telle ou telle chose, que ce soit sur la navigation proprement dite. C'est-à-dire, on a un poste défini. Soit on va être le barreur, soit le tacticien, soit le braqueur. Moi, je crois que je devais être régleur, wincher. Et puis, il faut s'occuper aussi de l'avitaillement, de la sécurité, de remplir tous les différents contrôles avant de partir. Donc, on répartit les tâches. C'est assez sympa parce que on se rend compte qu'il y a une effervescence, un peu de pression qui monte. Et puis, on met les canières en place, on met les pavillons. Si on a des petits partenaires, on colle les autocollants un peu à la dernière minute. Et tout ça se fait dans la bonne humeur. Ouais, il y a l'adrénaline, il y a un peu de stress parce qu'on était plus de 100 bateaux à l'époque. Donc il y a beaucoup de bateaux sur l'eau, il faut faire attention. Et puis, il y a plusieurs départs. La flotte est répartie en plusieurs catégories. Donc, il doit y avoir 4-5 départs. Donc déjà, c'est de bien prendre son départ dans sa catégorie en fonction de la flamme et de la couleur qu'on fait partie. Et puis, très vite, oui, on essaie de regarder un petit peu nos concurrents directs parce qu'on essaie déjà de naviguer contre les bateaux qui sont adversaires ou concurrents dans notre catégorie. Et puis, au fur et à mesure, on rattrape des bateaux qui sont partis un peu avant nous, souvent les plus petits bateaux. Et puis, on voit les gros bateaux aussi qui qui partent après nous vont à un moment donné vont nous doubler. Donc il y a plusieurs courses dans la course. Il y a à la fois la course dans sa catégorie, mais aussi la course en temps réel. C'est d'arriver le placer en temps réel, c'est-à-dire d'arriver, pourquoi pas, dans les 10 premiers. Il y a des gens qui ont déjà un certain palmarès, et puis d'autres qui sont vraiment là pour le plaisir, pour essayer de faire le parcours. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est très sympa. Et donc on tire des bords comme ça, et ça donne à la fois un côté magique, parce qu'on a ce paysage qui est fabuleux, mais aussi tous ces bateaux qui naviguent les uns à côté des autres, à tirer des bords, à se croiser. Voilà, ça donne un beau spectacle aussi à l'intérieur. Alors, moi, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, et notamment, je crois que c'était en 97. On avait participé quelques jours avant à la première épreuve de ce qui s'appelait la Solo Telegram. C'était une course ouverte pour les jeunes. Avec, au bout, il y avait un vainqueur qui se voyait offrir un Figaro, un budget pour une saison Figaro. Et donc, c'était organisé par aussi le club de Morlaix, notamment, et un certain Yvon Quillec, qui a été à la tête du Tresco Trophée pendant des années. Et Yvon, à la fin de cette épreuve, on était plusieurs marins à vouloir faire le tour du Finistère. On n'avait pas forcément de bateau, on n'était pas concentré vraiment sur cette édition. Et il nous a proposé de prendre son bateau, qui est un beau bateau, un Sigma 400. Et donc, on était parti pour le tour du Finistère avec un équipage à l'époque qui n'était pas encore très connu. Mais à bord, il y avait Charles Caudrelier, Nicolas Troussel, moi-même, Erwan Tabarly, Olivier Rabin et d'autres, tous ceux qui avaient participé finalement à la Solo Telegram. Donc, ça avait été un moment, ça a vraiment été une super semaine parce qu'on était vraiment, pour le coup, bien affûté et sur un gros bateau. Et on s'était bien amusé. Je me rappelle une étape qu'on avait faite. C'était entre Labère-Benoît et on allait jusqu'à Camaret. Et c'était Nicolas Troussel qui était à la navigation, que je connais bien. Et il nous avait fait tirer des bords dans les cailloux, mais alors vraiment à flirter avec les roches, avec les rochers. Et Charles Caudrelier, qui était le skipper, Yvon lui a donné la responsabilité du bateau, était un peu inquiet, mais on savait très bien que Nico connaissait ça parfaitement et que ça allait bien se passer. Mais c'est vrai qu'il ne fallait pas trop regarder à côté du bateau, on voyait les cailloux apparaître. Mais c'était un moment magique parce que c'était vraiment l'ambiance du Tour Finistère, parce qu'il y avait toujours des choses à apprendre, des choses à découvrir et des navigations très, très stimulantes. Je me rappelle notamment la première étape de nuit, mon premier tour du Finistère. On partait d'Ordonnée, on allait jusqu'à Port-la-Forêt. Donc, on allait passer le fameux Ratsin. Moi, j'avais peu de souvenirs du Ratsin, de ce passage-là. Et tout le monde m'en parlait comme un moment à clé important et puis relativement quand même engagé. Et c'est vrai que de passer ce Ratsin à la tombée de la nuit et ensuite d'enchaîner avec une nuit complète en course, on avait très peu dormir. Ah, c'était quand même fabuleux, c'était stressant, il y avait un peu de pression au départ et l'arrivée finalement, c'était génial d'avoir réussi ça. Moi, je me rappelle de ce passage de Ratsin avec tous les bateaux comme ça qui passaient à la queue leu-leu avec comme prévu du courant, des vagues, un beau soleil et ça marquait un tournant finalement dans ce tour du Finistère, parce que c'est toujours un moment important. L'étape de nuit, c'est souvent une étape clé pour le classement général, parce que ça a un coefficient un peu plus élevé, il me semble. Et puis c'est souvent, on est quasiment à la fin de l'épreuve. Donc souvent, le classement général se joue à la fin de cette étape. Moi, je me rappelle d'une arrivée à la Berre-Île-d'Hut que je connaissais très peu parce que finalement, en course classique ou même en croisière, on ne s'y arrêtait pas forcément très souvent, voire très peu. Et d'arriver dans ce bel endroit, alors je crois qu'on avait une étape assez agitée, c'était très humide, bien engagé, donc nous on était bien trempés à bord de notre petit bateau. Je me souviens, voilà, on s'était tous retrouvés au yacht club, dans la salle qui nous accueillait justement pour les résultats, et on est tous en train de se changer dans la salle, et ensuite de boire un verre avec tout le monde. Il y avait une super ambiance, même si on était tous trempés, même si on avait un peu froid, on était tous contents d'avoir fait cette étape. Et au petit matin, le soleil était revenu, c'était magique la sortie de repartir pour l'étape suivante. Il n'y avait plus un souffle de vent et on était dans un petit coin de paradis. Donc voilà, c'est ça le Tour du Finistère, c'est que du jour au lendemain aussi, les conditions peuvent très, très vite changer. C'est la joie de la météo en Bretagne l'été. Et on peut enchaîner des étapes un peu engagées, un peu humides, un peu sportives, qui peut donner des souvenirs ou des bons souvenirs. Et le lendemain, enchaîner avec une étape beaucoup plus calme, beaucoup plus tactique et tout aussi intéressante. Ce que je trouvais super intéressant et toujours enrichissant, c'était les rencontres finalement avec les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. Finalement, c'est l'occasion à chaque étape de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on se retrouve à couple ou au ponton ou à marée à côté d'un autre bateau. Et ensuite, quand on refait le match, que ce soit à la remise des prix ou au repas qui peut être organisé le soir, on discute avec des nouvelles personnes qui sont soit très un peu dans la même ambiance que nous, en tout cas la même approche, c'est-à-dire venus pour la régate et la compétition, et puis d'autres qui sont pas du tout forcément passionnés par ça, mais qui aiment la navigation, qui aiment se faire plaisir sur l'eau, qui aiment naviguer et qui racontent aussi leur course. Des gens qui certains ont suivi mon parcours après, ou d'autres qui, certains, j'ai évoqué les noms tout à l'heure, ont continué aussi un peu comme moi dans leur carrière, dans différents courses un peu plus prestigieuses, entre guillemets. Le Tour du Finistère, moi, ça m'a apporté déjà le fait de pouvoir naviguer sur des plans d'eau qui sont quand même assez complexes. On a à la fois la navigation côtière avec beaucoup de cailloux, des courants, météo très changeante. Donc ça donne une vraie expérience de ce que peut être la régate au large quand on navigue sur d'autres courses en Manche ou en Atlantique ou même en Méditerranée. Je pense que quand on a appris à naviguer sur le Tour du Finistère, on sait quasiment naviguer un peu partout dans le monde. On a un peu toutes les difficultés qui sont concentrées sur ce parcours entre la baie de Morlaix et, on va dire, la baie de Concarneau. Donc c'est sûr que c'est une vraie richesse pour tout le monde, pour les jeunes et moins jeunes. Ça a toujours été une expérience aussi de régate, parce que des fois on peut se faire surprendre par des gens qu'on n'a pas forcément, qu'on n'attend pas forcément au tournant, mais qui ont l'habitude de prendre des options qu'ils connaissent par cœur et qui fonctionnent. Et c'est toujours intéressant de comprendre après pourquoi ça a marché et ça nous fait progresser. Et moi, je pense que ça m'a aussi permis, ces expériences au Tour du Finistère, de pouvoir notamment... après, moi, j'ai fait beaucoup de courses sur le circuit Figaro. On est très souvent passé par là, cette côte-là, dans les deux sens. Et je pense que l'expérience du Tour du Finistère m'a beaucoup servi pour mieux anticiper des situations tactiques, stratégiques, des passages de courant, des passages de ratsin, des navigations au large de l'île de Bas ou dans les Abers. Toutes ces expériences-là m'ont bien servi. Oui, j'aimerais bien pouvoir refaire un jour le Tour du Finistère. C'est vrai que pourquoi pas le faire avec mes enfants. Je sais que Jérémy Bayou, qui on a beaucoup navigué, l'a fait une année comme ça en famille. Et c'est ce qui est bien, c'est que le Tour Finistère, on peut le faire à tout âge. Et donc, si ce n'est pas dans les 2-3 années qui viennent, ce sera sûrement un jour. Et le faire soit voilà, en famille avec des copains ou des amis, faire le Tour Finistère, ce sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup à Armel Lecléache d'avoir évoqué avec nous ses Tours du Finistère à la voile. Il vient de mettre à l'eau son nouveau trimaran, Banque Populaire 11, et réalise ses premiers essais. Objectif de cette fin d'année, la Transat Jacques Vabre, en double avec Kevin Escoffier, avec en ligne de mire la Route du Rhum en solitaire en 2022, au départ de Saint-Malo, à destination de la Guadeloupe. C'était Tout commence en Finistère, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Retrouvez-nous sur notre site internet toutcommenceenfinistere.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. À bientôt.
Tout commence en Finistère, notre partenaire qu'on retrouvera donc dans un mois. Ce sera le 15 juin dans l'Aisne. Quant au Tour du Finistère à la voile, je vous rappelle donc que c'est du 25 au 31 juillet et c'est bien sûr au large de nos côtes.